en ce 16 mai à Rencontre spirituelle, j'ai pensé que ce serait intéressant de se poser la question, est-ce que la foi chrétienne vraiment là? Est-ce que cette foi contribue au bonheur de l'homme et de la femme, évidemment? Est-ce qu'il y a vraiment un bonheur à être chrétien, ou bien si c'est un ennui, ou une chose qui n'a guère d'importance? C'est une question plutôt grave, mais je pense que vous en connaissez la réponse. C'est aussi la fête aujourd'hui d'un saint que j'aime beaucoup, André Bobola. C'est un jésuite polonais qui a été martyrisé en 1657. Je vous en avais parlé l'an dernier. Et aussi, c'est d'un autre martyr, Jean-Nepomucène, quel nom qui nous a toujours amusés quand nous étions jeunes. Jean-Nepomucène, je vous en avais aussi parlé. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pensé plutôt laisser Saint-Honoré aussi, un évêque d'Amiens, mort en 600, ou Saint-Ubal de Goubillon aussi, dont je vous ai parlé déjà. C'est pourquoi je vais parler du bonheur du chrétien. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Comme chrétien, je crois que nous pouvons évidemment admettre qu'on partage les joies, les difficultés de tout le monde. C'est la même chose. Et en résumé, je voudrais spécifier pour tous ceux qui croient que nous n'avons, que le Christ n'ajoute rien, que je peux, grâce à ma foi au Christ, à tout moment du jour et de la nuit, je peux accueillir ma vie comme un don de Dieu. Je le sais d'autant plus que je vous ai déjà révélé que j'ai failli personnellement, je le dis en toute simplicité, parce qu'on parle de ça aujourd'hui très ouvertement, j'ai failli moi-même être avorté. Alors, la vie est pour moi quelque chose comme si j'étais passé près de la mort et que j'en suis sorti. Vous savez, quand on rencontre des gens qui ont été hospitalisés, on a dit, ils sont morts, c'est fini. Mieux vaut acheter des vêtements de deuil et de préparer les funérailles. Et tout à coup, hop, la personne revient. Et apprenant qu'elle a failli mourir, elle goûte encore 100 fois plus, on dirait, le soleil qui se lève, les fleurs qui jaillissent, le sourire d'un enfant ou quoi que ce soit. Hein. Et on s'aperçoit que notre propre vie est un don fantastique. À tout moment aussi du jour et de la nuit, on peut être assuré d'une tendresse sans limite. C'est celle de Dieu. L'amour que Dieu nous donne, c'est établi sur des révélations de la Bible, mais c'est aussi pour moi une évidence. Ça nous permet aussi de connaître la joie d'être pardonné, nous en parlerons. Et cette joie fantastique de se savoir habité par Dieu. Comme je vous ai dit souvent, quand on se lève le matin, pourquoi pas dire « Mon Dieu, tu es en moi ». Et je suis en toi et nous sommes inséparables. Quelle joie extraordinaire que de penser que nous sommes, Seigneur, inséparables et que tu es tout amour. Nous ne sommes jamais seuls dans le métro. Nous ne sommes jamais seuls quand le téléphone ne sonne plus et que la porte ne sonne plus et que le silence s'est fait dans l'appartement qu'on habite ou la petite chambre. Nous ne sommes jamais seuls. Et dans mon travail, je peux me réjouir de plaire à Dieu, même si le travail est un travail monotone et ennuyeux. Et on peut être heureux d'être assuré finalement, d'agir grâce à cette force que Dieu met en nous. Puis dans nos deuils, dans nos souffrances, on espère toujours un bonheur qui surgit à l'horizon. Et qui dépasse la mort. Puis dans nos épreuves, quand on regarde la croix du Christ, on ne la voit pas comme d'autres la voient, c'est pas un Christ ensanglanté qu'on voit, c'est un Christ plein d'amour. Et on continue à croire, finalement, continuellement, à la fécondité de la vie quand on croit. Car la vie est féconde, elle est féconde de la présence de Dieu et du miracle que Dieu accomplit. Je suis bien d'accord pour admettre que beaucoup d'incroyants, j'en connais, qui respirent une joie profonde de vivre, qui trouvent aussi des raisons d'exister dans leurs activités diverses. Je me souviens d'un très grand politicologue français d'origine allemande, juif, que j'ai même reçu chez moi ici à Montréal, était président de l'Association internationale des politicologues, Alfred Grosser. Et Alfred Grosser, qui était athée, avait un sourire perpétuel et autour des yeux des rides de bonheur. Il avait élevé ses 4 fils dans le catholicisme malgré son athéisme, afin de leur permettre de comprendre ce que c'est que la culture occidentale, le sens d'une cantate de Bach ou d'une cathédrale, le sens de la recherche de la démocratie chez les vrais chrétiens, le sens de la profondeur de l'évangile de ce personnage qu'il appelait Jésus de Nazareth. Alfred Grosser, un incroyant joyeux, d'une joie profonde et sans doute d'une grande inquiétude. Les croyants, d'ailleurs, sont les premiers, je pense, à se réjouir quand ils rencontrent des gens comme ça, parce que vraiment la joie de vivre, pour un vrai croyant, c'est un hommage que l'on rend à Dieu, puisque c'est lui qui est à l'origine de tout le dynamisme qui habite les hommes quand ils font des choses admirables. Nous le savons dans notre foi. Tous les désirs sans lesquels nous n'aurions aucune expérience de bonheur, ce sont des désirs que Dieu dépose au fond de notre être. Les animaux n'ont pas ces désirs extraordinaires, sauf des reflets lointains de ces désirs. Vous savez que si on prend un bébé humain et un bébé chimpanzé, nés le même jour, et qu'on les éduque dans une maison avec les parents du bébé humain, on voit en peu de semaines que le bébé humain va dépasser petit à petit le singe, qui au début fait des progrès peut-être plus rapides en quelques jours, là, mais très rapidement, c'est fantastique de voir le bébé humain se mettre tout à coup à parler, à réagir. Et tout ce que Dieu a déposé dans notre cœur, dans notre intelligence et dans notre volonté, dans notre capacité d'absorber les choses, est absolument phénoménal. C'est Dieu qui ne cesse de créer finalement la beauté, nous le savons, le charme, la consistance des êtres. C'est eux qui sont les reflets de Dieu. On ne peut pas être indifférent devant l'existence quand on croit. Et pourtant, il y a bien des chrétiens qui se disent, comme les incroyants, qu'est-ce que j'aurais de plus ou qu'est-ce que j'ai de plus en étant chrétien ou si j'étais chrétien? Et les incroyants souvent nous disent, ce que je gagnerais, bien, c'est quoi? Toute une panoplie d'obligations, vos 10 commandements de Dieu, là, puis vos commandements de l'Église, qui n'existent pour ainsi dire plus, on n'en parle plus, les commandements de l'Église. Et c'est grave, à mon avis, parce que ce ne sont pas des commandements, ce sont des conseils de bonheur. Ce sont des conditions. Si tu veux être en santé, mange. L'Église nous dit, si tu veux être en santé spirituelle, mange une fois par semaine le corps du Christ. C'est tout simplement ça. C'est une mère qui nous conseille. Si tu veux que ton aspiration au bonheur que Dieu te donne persiste, agenouille-toi, reconnais tes fautes et demande pardon à Dieu. Mets-toi, toi. C'est ça, hein? Tous ces commandements. Et les gens pensent que loin d'acquérir quelque chose, ils perdraient une partie de leur liberté. Un évêque, d'accord, une espèce de bonne place au paradis, mais c'est pas ça la foi. Il suffit d'écouter d'ailleurs les convertis pour savoir que la découverte de l'Évangile, ça signifie pas d'abord pour eux l'adoption d'une morale qui se pèse et qui est lourde, c'est la rencontre d'un être. Oui, un être qui vient combler leur soif d'être aimé, et c'est Dieu. Avant d'aborder tout ça, je crois qu'il est important de rappeler une évidence. Les chrétiens sont d'abord des hommes et des femmes comme tout le monde. Ils partagent les joies, les peines de tout le monde. C'est au milieu de toutes sortes de bonheurs puis de malheurs, d'une existence humaine tout ordinaire, suivant que les chrétiens font, grâce à leur foi, l'expérience d'une joie, là, cette joie authentique à un niveau que la Bible appelle le cœur. C'est là qu'elle se situe, la joie du chrétien. C'est dans le cœur, selon, comme on dit dans la Bible. C'est une zone profonde, ce cœur. C'est une zone profonde de l'âme où la paix est toujours possible, même quand on est terriblement touché dans son corps ou déçu dans ses affections. Je pense à la joie de Claude Brunet, que vous avez, j'espère, connu, moi qui étais un ami à l'hôpital Saint-Charles-Borromée sur le boulevard René Lévesque, près de Saint-Laurent. Il y a là une communauté chrétienne sous la direction de l'abbé Valère Dubé, absolument superbe. C'est merveilleux d'aller à la messe là. Et Claude Brunet avait ce sourire des saints. Lui qui était complètement paralysé, presque. Je me souviens d'une entrevue à la télévision d'Odette Léger. Oh, il y a très longtemps, c'était Judith Jasmin, je pense, qui avait fait cette entrevue, avec cette ancienne prisonnière qui ne pouvait bouger dans son petit cagibi où elle était enfermée pendant des années. Et elle avait un sourire et une sérénité et une joie qui venaient du sens de la présence de Dieu. Un sens constant qui l'a habité pendant toute sa détention. En somme, si nous avons reçu la grâce de croire à l'Évangile, eh bien, nous pouvons à tout moment du jour et de la nuit accueillir notre vie comme un don de Dieu. C'est dans la liturgie des heures. Un jour nouveau commence, Père, un jour reçu de toi. Ça se chante dans les monastères, dans les couvents, dans les communautés. Car on peut recevoir comme un cadeau de Dieu la santé que nous avons si nous avons le bonheur d'être en bonne santé. C'est un cadeau de Dieu que l'affection de nos parents, si nous avons la chance de les avoir encore, et d'en être aimés. C'est un cadeau de Dieu que la jeunesse de nos enfants, de nos petits-enfants, et pour les professeurs de leurs élèves, la beauté d'un paysage, c'est un cadeau de Dieu. Un mari vraiment chrétien ne prétend pas aimer sa femme plus qu'un époux incroyant. Mais il l'aime avec une nuance spéciale. Il est en action de grâce et il dit « Merci Seigneur d'avoir créé, de continuer à créer » parce que nous sommes toujours en état d'être créés constamment. Si Dieu ne nous créait pas à chaque instant, nous disparaîtrions. Car nous savons que à tous les 7 ans, à peu près, notre corps se renouvelle. Alors merci Seigneur d'avoir créé, de continuer à créer tout ce qui fait le charme de mon épouse. Ça, c'est un vrai chrétien. Je pense à cette danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Elle dit, j'ai toujours pensé que la vie est une faveur exceptionnelle de la part de Dieu. Je suis pleine de gratitude pour chaque jour qui m'est donné. Je le reçois comme un cadeau. Je me dis que les choses que je vais voir seront belles et que je rencontrerai des gens merveilleux. Quand j'écoute Mozart, cela me donne une telle joie que ma prière, c'est Mozart. Je suis très consciente alors de l'exceptionnelle bonté de Dieu, du fait que je suis là dans ce bonheur, que je vis, que je suis si gâtée par la vie. Et être assuré d'une tendresse sans limite de la part de Dieu, c'est une des grandes joies, une des grandes sources du bonheur du chrétien. Ton amour me fait danser de joie, peut-on lire dans le psaume 31, « Ton amour me fait danser de joie. Seigneur, tu vois ma misère et tu sais ma détresse. » Même si j'ai pas l'impression d'avoir été tellement gâté par la nature et les circonstances, c'est pas tout à fait mon cas. Moi, j'étais plutôt gâté, j'avoue. Oh, j'ai eu bien des malheurs, bien des souffrances, mais tout ça, ça n'a pas d'importance. Mais bien des gens peuvent avoir l'impression comme ça de avoir été gâté par la nature et les circonstances comme mon pauvre fils qui est mort. Non, dans ce temps-là, il faut croire que nous sommes infiniment et personnellement aimés de Dieu. Nous sommes tous aimés également de Dieu. Il ne s'agit pas d'y croire parce que nous nous sentons enveloppés par une tendresse infinie, mais parce que nous prenons au sérieux cette déclaration d'amour que Dieu nous adresse dans la Bible. Où est-ce que c'est ça? C'est dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas rien que dans le Nouveau Testament que Dieu est révélé comme étant tout amour. Ainsi, dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, au chapitre 43, les Juifs nous ont enseigné ça. Tu as du prix à mes yeux, et moi, dit le Seigneur, je t'aime. Que c'est beau. Cette conviction élimine de notre esprit cette terrible impression que nous pouvons avoir de moins bien réussir notre vie que le voisin, sous prétexte que nos talents sont moins nombreux que les leurs. Un jour, je compte vous parler des raisons que j'ai de croire à la Bible comme parole de Dieu, parce que j'appuie souvent sur des textes d'Isaïe ou autres. Je vous verrai, on en parlera. Rappelez-vous que le chrétien sait que Dieu aime infiniment chacun de ses enfants. Dans son immense famille, il n'y a pas de mal-aimé, il n'y a pas de laissé pour compte. Bien mieux, personnellement, moi je crois que le Seigneur prend plaisir à nous regarder. C'est le prophète Sophonie dans l'Ancien Testament qui dit « Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, en héros sauveur. Il dansera pour toi avec des cris de joie, c'est étonnant. Il dansera pour toi avec des cris de joie. » Quel étrange surréalisme qu'avait Sophonie. En somme, Dieu admire ce qu'il y a de bon en moi, ce que je fais de bien. Mais ça, c'est pas du tout évident. C'est uniquement sur sa parole dans la Bible que j'y crois. C'est dans Isaïe, chapitre 62, il dit « Comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi ton Dieu t'épousera. Comme un époux trouve joie dans son épouse, ainsi ton Dieu prendra plaisir en toi. » Ces paroles m'en comblent. Et la certitude de pouvoir plaire à Dieu est l'une des grandes sources de la joie chrétienne. C'est ça la joie chrétienne. La certitude de pouvoir plaire à Dieu qui nous aime. Comment y croire quand on voit toutes les turpitudes du monde? Quand on voit aussi notre propre médiocrité, notre bêtise, notre sottise, nos péchés, nos folies. Et c'est ici qu'intervient un autre aspect fondamental de la révélation que Dieu nous fait dans la Bible, c'est sa miséricorde, la miséricorde de Dieu. Connaître la joie d'être pardonné. Je me souviens d'une entrevue que nous avions faite avec le docteur Jacques Goldberg, un athée français éminent. Il avait publié un très beau livre, La culpabilité, auprès universitaire de France, mais qui ne savait pas comment obtenir de pardon pour ses fautes personnelles intérieures. Car Dieu n'existant pas, comment pouvait-il être pardonné? L'abbé Brisebois l'avait fait réfléchir là-dessus à cette émission. Il en avait été bouleversé. En somme, nous crions vers Dieu, « Rends-moi la joie d'être sauvé. » C'est dans le psaume 51. Les pauvres pécheurs, bien, nous pouvons bénéficier dès que nous acceptons Dieu, nous acceptons ce pardon qu'il peut nous accorder. Bien mieux, c'est à travers mes péchés que je peux faire l'expérience, moi personnellement, la plus forte de l'immense tendresse de Dieu. Oui, mes péchés me permettent de comprendre sa tendresse, car je n'en reviens pas qu'il me pardonne tout ce que j'ai fait. Souvenez-vous du triple reniement de Saint-Pierre, c'est en voyant le regard plein de miséricorde que Jésus pose sur lui après son triple reniement, là au moment de la passion de Jésus, que Saint-Pierre comprend enfin de quel amour il est aimé. Vous pouvez aller lire ça dans Saint-Luc au chapitre 22 vers la fin. Là. C'est en regardant d'ailleurs leur crucifix que depuis des siècles, des milliards de chrétiens réalisent la vérité du cri qu'a lancé Saint Paul vers la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il dit Saint Paul? Il dit « Je vis en la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » On est plutôt Galate. « Je vis en la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Et ce regard-là que Dieu pose sur nous, ça guérit notre cœur jusque dans ses profondeurs. Une guérison qui s'accomplit dans les sacrements. C'est ça les sacrements, ça s'accomplit dans les sacrements de la réconciliation, de la pénitence, de la confession si vous voulez, puis dans l'Eucharistie. par un contact personnel avec Jésus lui-même. Parce que dans ces deux sacrements, on a un contact personnel avec Jésus. Quand le prêtre dit « Je vous pardonne », c'est Jésus qui parle. Quand il dit « Ceci est mon corps », c'est Jésus qui parle. Quand on lui donne le corps du Christ, qu'on dit « Le corps du Christ », c'est l'affirmation de la foi aux paroles mêmes de Jésus, c'est Jésus qui parle. Il faut aussi se savoir habité par Dieu. Habité par Dieu et réciter ses prières constamment. « Ô toi, qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, fais-moi vivre avec toi dans le fond de mon cœur. Ô toi, qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais-moi vivre avec toi dans le fond de mon cœur. » Une phrase de l'Évangile qui réjouit les chrétiens depuis des siècles. Nos cœurs bondissent à l'audition de cette parole. « Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. » Et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure, où mon Père l'aimera. Nous sommes le temple vivant du Dieu vivant. Nous sommes des tabernacles ambulants. Dieu se donne à nous. Il vient nous remplir de sa présence et de son amour. Et l'amour en Dieu, c'est quelqu'un. Cet amour, c'est pas simplement de l'amour, c'est quelqu'un, c'est l'Esprit Saint, qui est un véritable baiser d'amour que le Père ne cesse de nous donner. C'est une musique d'amour qui ne cesse de nous chanter. C'est un océan de tendresse dont il ne cesse de nous envahir. Dieu, notre Père, nous aime tellement, il nous considère tellement comme ses enfants, qu'il nous offre le don qu'il ne cesse de faire à son Fils unique dans l'intimité de sa vie trinitaire éternelle. C'est le don de l'Esprit Saint. Plus un chrétien grandit dans sa foi, plus il goûte cet esprit d'amour que le Père lui donne dans le Christ. Et la Trinité n'est plus pour lui une espèce d'affaire incompréhensible. Bon, la Trinité, parlez-moi pas, monsieur Vaugrand Champagne, de la Trinité, je comprends rien. Mais non, ça devient éclatant de beauté. C'est le milieu divin, comme dit Théard de Chardin, dans lequel nous baignons. Et alors, avec la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, je vous en ai déjà parlé, nous avons fait une émission sur Élisabeth de la Trinité, eh bien, nous pouvons comprendre que nous pouvons faire de chaque minute de notre vie le moyen de nous immerger davantage dans la profondeur de cet océan qu'est Dieu. Oh. Nous n'attendons plus l'éternité pour entrer dans la joie de notre Dieu. C'est dès ici-bas. Connaissez-vous cette belle réflexion de Georges Bernanos? Si je recommençais la vie, ma vie, je tâcherais de faire mes rêves encore plus grands, parce que la vie est infiniment plus grande et plus belle que je n'avais cru, même en rêve, et moi plus petit. Quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », notre cœur bondit de joie. Et alors, si j'ai la foi, c'est toute ma vie de travail qui s'entrouve illuminée. Pour se réjouir de plaire à Dieu, nous restons, chacun d'entre nous, l'enfant bien-aimé du Père. Lorsque je suis embêté, lorsque je cherche la solution d'un problème difficile sans trouver immédiatement, lorsque je me bats avec les difficultés de mon activité professionnelle ou n'importe quoi, eh bien, je reste toujours l'enfant bien-aimé de Dieu, mon Père. Et même si je me plais guère à moi-même en accomplissant ces besoins-là, l'essentiel, c'est que je plaise à Dieu. Cette certitude, c'est pour le chrétien convaincu une source formidable d'énergie. Encore faut-il que nous dominions notre tâche. Au lieu de nous laisser abrutir par elle, il ne faut pas se laisser abrutir par les tâches. C'est pour ça que le repos dominical a été institué. C'est pour que nous puissions nous reposer de ce travail qui parfois nous abrutit. Alors, au milieu d'horaires trop surchargés, il nous faut prendre du recul par rapport à notre travail. Pensons à notre mère Bourque, qui est une sorte d'urbaniste, qui s'efforce d'aménager des espaces verts au cœur de Ville-Marie, au cœur de Montréal. Demain, je vais vous parler justement de l'histoire de Ville-Marie, d'après un texte d'Alain Roy. Eh bien, Le travailleur lui doit prévoir aussi des heures de détente, comme des oasis, des espaces verts. C'est dans son encyclique sur le travail que Jean-Paul II parle de cet espace intérieur que l'homme doit toujours préserver pour ne pas être esclave de son activité professionnelle. Il faut insister sur l'urgente nécessité des haltes de prière dans notre vie. Toujours prier quotidiennement, plusieurs fois par jour, ne serait-ce qu'une minute. C'est des moments où nous prenons le temps d'écouter le Seigneur nous redire « Tu es mon Fils bien-aimé ». Parce que privé de cette respiration régulière, notre vie s'anémie, on persouffle. Je sais, moi, pour ma part, que je bâtis de l'éternel, même si mon œuvre périt dans un incendie, ou si ma tâche peut être banale parfois, comme celle l'était quand je faisais les émissions de télévision, c'était souvent très banal, monotone, répétitif. D'ailleurs, avez-vous déjà pensé qu'il ne reste rien des meubles que Jésus a fabriqués, que Joseph a fabriqués? Les travaux ménagers accomplis par la Sainte Vierge, il n'en reste rien. Dieu n'a pas voulu que ces gens-là brillent dans le domaine littéraire ou artistique et laissent derrière eux quelque chose. Jésus n'a jamais rien écrit, mais ses paroles sont demeurées grâce à l'Esprit-Saint qui a inspiré les évangélistes. Alors le caractère banal des activités à Nazareth nous rappelle que l'essentiel, c'est vraiment l'amour avec lequel nous accomplissons ce qu'on a à faire. Toutes les petites choses.
Et nous pouvons trouver ce bonheur, je crois, parce que nous savons que nous sommes animés, nous, chrétiens, par l'Esprit-Saint. Je vous en ai parlé tout à l'heure. L'Esprit-Saint que le Père me donne par le Christ. Nous l'avons reçu, il nous habite, il est en nous. Il faut l'invoquer souvent. Esprit-Saint, prends-moi. Je suis fatigué d'être moi-même et d'être stupide et imbécile. Habite-moi, prends-moi. Transforme mes idées. Transforme ma volonté. Je me donne. Parce que c'est sûr que, même si on prend des tranquillisants, la foi m'empêchera pas d'avoir la migraine. Des réveils difficiles après une nuit trop courte aussi, ça m'arrive. Mais la foi, elle m'assure que je suis habité par l'Esprit même de Dieu. Et que de ce fait, je suis, ça me gêne un peu de le dire, mais je suis un enthousiaste. On m'a déjà fait ce reproche à la télévision un jour. C'est l'abbé Roland Leclerc qui m'interviewait. C'est des reproches d'animateur. Il voulait me bousculer. Vous n'avez pas peur de passer pour un exalté, me disait-il deux fois. Mais oui, être enthousiaste, c'est pas n'importe quoi. Vous savez d'où ça vient ce mot-là, enthousiaste? Ça vient du grec. En théos, théos qui veut dire Dieu. Et c'est un adjectif qui veut dire littéralement envahi par Dieu. Je sais, comme nous devrions tous le savoir, chacun d'entre nous, nous sommes envahis par Dieu. Dieu ne nous laisse pas comme ça, au loin, là, puis il n'est pas distrait, Dieu. Nous avons tous raison d'être enthousiastes. Puisque Dieu est en nous. Et cet enthousiasme ne doit pas se traduire, évidemment, par toutes sortes d'euphories, là. Être ultra-pépé, puis toutes sortes d'affaires comme ça. C'est pas ça, l'enthousiasme chrétien. C'est de savoir calmement que notre langue et notre cœur, que notre vie, que notre force s'enflamme de ta charité au Seigneur. Ta charité pour tous les hommes que tu aimes. C'est un très beau texte dans la liturgie. Et de savoir que nous ne sommes jamais seuls sur notre lieu de travail. Le Christ est avec moi et en moi. Je peux commencer chacune de mes journées en lui disant à nous deux, Seigneur, pour rendre le monde plus beau, allons-y. Mais aussi avec tous mes frères et mes sœurs qui sont attelés à la même besogne. Et dans mes deuils, eh bien, je change leur deuil en allégresse, dit Dieu. Je les réjouis après leur peine. Et moi, ma grande conviction, c'est que mes parents qui sont décédés, mon frère aîné est mort, mon fils est mort, eh bien, j'ai de l'allégresse au fond de mon cœur à la pensée qu'ils sont heureux, qu'ils sont au ciel. C'était de la façon qu'ils sont morts, je crois qu'ils sont au ciel. Et ce n'est pas une vague espérance dans des retrouvailles au-delà de la mort là, qui habite mon cœur de chrétien. Je suis absolument sûr de la résurrection des morts et de la vie éternelle parce que je crois sur le témoignage des apôtres à la résurrection du Christ. S'ils n'avaient pas cru eux-mêmes à la résurrection du Christ, auraient-ils accepté de mourir martyrs et de faire tout ce qu'ils ont fait? Serait-il mort simplement pour un mensonge, en affirmant quelque chose qui n'était pas vrai? Je ne crois pas ça. Le chrétien a cette chance extraordinaire de pouvoir répondre quelque chose à tous ceux qui lui disent « Moi, je croirai à l'au-delà lorsque quelqu'un en sera revenu. » Eh bien, c'est précisément pour cela que j'y crois. Les apôtres l'ont vu vivant après sa résurrection d'entre les morts. Puis comme il est à la tête de l'humanité, il est la tête de l'humanité, eh bien nous, ses membres, dans ce corps mystique, nous ressusciterons à notre tour. C'est ce que nous dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Et bien mieux, nous chrétiens, nous croyons que nos défunts sont tout proches de nous. Ben oui, je parle souvent à ma mère. Et je parle même plus souvent à mon fils. Combien de fois je l'invoque? Et combien de fois il m'écoute? Puisque là où est le Christ, là sont tous les membres de son corps. Puis en communion à son corps eucharistique, je sais que je communie à tous mes frères et mes sœurs défunts. Je le sais chaque jour à la messe. Je suis intimement convaincu de ça. Pensez que nous sommes au ciel, Dieu est là, nos défunts sont là, les anges virevoltent autour de nous, surtout quand nous venons de la communion, mais nos yeux de chair ne voient rien, mais nous croyons au monde visible et invisible, et nous sommes dans ce monde invisible, il est là, plus réel peut-être que tout ce monde visible d'objets qui vont disparaître. Regardez ces civilisations que l'on retrouve, les villes disparues. Nous croyons que nos constructions ne disparaîtront jamais. Elles disparaîtront. Le monde invisible est là pour toujours. Et soyons joyeux, c'est Maître Eckhart dont je vous ai parlé aussi. Beaucoup de gens ont aimé cette émission sur Maître Eckhart. Si tu remerciais Dieu pour toutes les joies qu'il te donne, il ne te resterait plus de temps pour te plaindre. C'est ce qu'il dit, ce grand mystique, ce grand dominicain du XIIIe siècle. Et dans nos épreuves, nous devons penser à cette parole du psaume. Ceux qui s'aiment dans les larmes moissonnent en chantant. La foi ne nous fait pas comme une drogue, le pium. Ça ne nous permet pas d'échapper à la souffrance physique ou morale, c'est sûr. Et le chrétien n'oublie pas que Jésus lui-même a connu l'angoisse, la tristesse, à Gethsémani. Il vit dans ce jardin où il aurait sué des sueurs de sang. Nous savons que le disciple n'est pas au-dessus du maître. Et d'autre part, mais le chrétien, j'en suis sûr, reste déconcerté. Je le suis souvent. Par l'énormité scandaleuse de beaucoup de souffrances humaines. Il y a des souffrances, moi, que je vois parfois, je suis bouleversé, j'ai l'impression que tout à coup, Dieu s'efface. Je deviens comme pendant une fraction de seconde athée. Parce que l'existence du mal, c'est tellement un mystère insondable et difficile que je me dis toujours, mais suis-je meilleur que Dieu? Il me semble que je supprimerai cette souffrance. Pourquoi ne répond-il pas? Je ne sais pas. Je souffre de ça plus que de toute autre chose. Mais il n'empêche que l'Évangile me permet de vivre la souffrance autrement. Parce qu'il y a une étoile qui éclaire mes ténèbres, c'est la croix du calvaire. C'est pour ça que j'ai des croix dans toutes les pièces de ma maison. C'est pas pour être catholique machin machin. C'est parce que j'aime cette croix qui est la preuve de l'amour que Dieu me porte. et je ne peux plus accuser Dieu quand je regarde ça, de ne pas savoir ce qu'est la souffrance. Dieu en personne a souffert en Jésus, et je ne peux plus me servir de l'existence du mal pour prétendre que Dieu ne nous aime pas. Parce que Dieu s'est servi de la souffrance elle-même, celle que les hommes lui ont infligée, celle que nous lui infligeons. Il se sert de cette souffrance pour nous prouver son amour. Et au moment même où nous nous moquons de lui, où nous le torturons, où nous repoussons, quand il nous serre dans ses bras puis que nous le repoussons, parce que nous préférons pécher, eh bien il continue à nous regarder avec une tendresse infinie. Et il murmure, « Rien, rien, mon enfant, ne pourra m'empêcher de t'aimer, ni tes moqueries, ni tes insultes, ni tes fouets, ni tes clous, ni ton indifférence, ni tes reniements. Pardon, Seigneur, pardon. » Oh, le Christ ressuscité nous invite aussi à continuer son œuvre. C'est une œuvre de salut. Il veut que nous unissions nos souffrances à son sacrifice qui est un sacrifice d'amour. Nos souffrances, nos joies, nos danses comme nos souffrances alitées. Ce qui sauve le monde, c'est la foi que nous gardons en l'amour du Père. Alors que nous sommes en proie à la souffrance physique ou morale, ou qu'une trop grande joie nous est distrait aussi. C'est ça qui nous sauve. Cette foi à toute épreuve bouleverse en quelque sorte le cœur, ce cœur merveilleux de notre Père. Et ça mérite à ses yeux le salut de tous nos frères. Nous pouvons répandre cet amour à la surface de la terre, en union avec Jésus. Il va sans dire que ce qui plaît à Dieu, là, c'est évidemment pas la souffrance des enfants, mais c'est la confiance, je vous le rappelle, qu'il garde en lui envers et contre tout. Nos souffrances, c'est vide, c'est zéro. C'est l'amour au fond de nos souffrances qui fait qu'en dépit de nos souffrances, nous savons que Dieu nous aime et nous essayons de l'aimer. Le chrétien qui souffre n'est évidemment pas délivré de sa souffrance sur la terre, ni de la peine de souffrir pour rien. Il sait ne pas perdre son temps. Lorsqu'il est immobilisé sur son lit de malade et qu'il a échoué, non. Il sait que Dieu l'aime et il sourit dans la mesure où il le peut. Heureuse celle qui a cru, disait Élisabeth à la Vierge Marie, au moment de la visitation que nous allons célébrer le dernier jour du mois, ce sera ma dernière émission cette année. Eh bien, c'est la première béatitude de l'Évangile, ça. Heureux celui qui a cru. La dernière béatitude proclame encore la joie de tous ceux qui croiront sur le témoignage des apôtres que Jésus est vivant. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. C'est dans Saint Jean, chapitre 20, verset 29. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Et d'un bout à l'autre de l'Évangile, c'est ce lien indissoluble entre la foi et la joie qui est affirmé. Heureux celui qui croit dans les actes les plus simples de sa vie quotidienne. Celui qui croit aux merveilles de l'Évangile. Alors, est-ce qu'il suffit d'exposer la beauté formidable du christianisme pour en montrer la valeur? Eh bien, certains le pensent. Ils trouvent une telle correspondance entre l'Évangile et les désirs de l'homme que Dieu seul, pense-t-il, a pu révéler cette bonne nouvelle. Alors que toutes les religions, que toutes les sagesses philosophiques du monde n'apportent qu'une espèce de réponse partielle à nos interrogations et nos aspirations profondes, eh bien l'Évangile, oui, l'Évangile satisfait pleinement notre attente. Regardez les convertis qui sont allés dans différentes religions, qui sont circulés ici et là. Oh, je me souviens d'une entrevue que j'avais faite avec une femme merveilleuse qui avait comme ça parcouru le monde. Et après 25 ans, une de ses amies très audacieuses, c'était des femmes assez audacieuses, un peu assez féministes à Paris, puis elle lui lance un évangile par la tête, puis elle dit « Espèce d'idiote, lis donc ça !» Et elle nous disait qu'elle l'avait lu dans une nuit et qu'elle était revenue à sa foi d'enfance, et qu'elle avait trouvé l'attente qu'elle cherchait, elle l'avait trouvée dans l'évangile. Parce que l'évangile révèle l'homme à lui-même. Ah, si vous saviez. Cette révélation du mystère trinitaire, ça éclaire des aspects fondamentaux de notre condition humaine. Que c'est beau la Trinité. Et la bonne nouvelle évangélique nous promet d'autre part que nos désirs vont être réalisés pleinement. Nos désirs les plus secrets, ces désirs de réconciliation avec nous-mêmes, avec les autres, avec la nature, puis avec Dieu, ça va s'accomplir. Il suffirait d'exposer avec clarté, puis dans toute sa cohérence, cet ensemble du mystère chrétien, pour qu'il me semble que la grâce est d'un, l'Esprit-Saint est d'un, tous les incroyants y découvrent la vérité. Mais comment l'exposer, ce mystère chrétien que nous ressentons au fond de notre cœur? Ah. Il y a là des méthodes qui ont été expliquées par Maurice Blondel, puis par le père Teilhard de Chardin aussi. Je comprends très bien que beaucoup de chrétiens privilégient un itinéraire vers la foi qui suivrait cette espèce de méthode d'immanence dont on parle souvent. C'est une méthode pour convaincre les incroyants. Considère ça comme le grand chemin, la grande route, la grande voie par laquelle il faut essayer de faire cheminer les hommes d'aujourd'hui. D'autres pensent, au contraire, avec Pascal, qu'il ne suffit pas de montrer tout le caractère vénérable et aimable de la religion chrétienne. Mais c'est difficile de montrer la vérité de la foi chrétienne. Il faut courir à l'histoire. Il faut repérer les traces que le Seigneur a laissées de son passage parmi nous. C'est évidemment ce que l'auteur des Pensées, le Pascal, fait dans la troisième partie de son livre admirable. J'espère que vous avez lu les Pensées de Pascal. Quand il étudie les miracles, puis l'accord qu'il fait entre les prophéties de l'Ancien Testament puis les réalisations en Jésus-Christ. On va dire que cette méthode pour convaincre les autres a le tort de faire appel à des arguments extérieurs au noyau même de la prédication de Jésus dans l'Évangile. Mais est-ce que Jésus lui-même n'a pas dédaigné cette méthode? Pas du tout. Il n'a jamais demandé de le croire sur parole. Pour susciter la foi de ses auditeurs, qu'est-ce qu'il fait? Jésus fait appel aux œuvres que son Père lui donne de réaliser. Et qu'est-ce qu'il fait? Des miracles. Il ne semble donc pas contraire à l'Évangile de chercher à rendre compte de notre foi en invoquant tous ces signes que le Christ a laissés, qu'il a pris soin d'accomplir et qu'il accomplit encore pour accréditer son message. C'est pour ça que je vous ai fait plusieurs émissions sur des grands miracles. Ils sont inscrits dans la liste complète des émissions que j'ai faites depuis 13 mois presque. Fantastique, que je vous ai exposé de long en large pour vous montrer que ça existe des miracles au XXe siècle. Cette méthode me semble indispensable quand on s'adresse à ceux qui sont vraiment séduits par la beauté du message de l'Évangile, mais qui n'osent pas y croire. Ils vont dire c'est trop beau pour être vrai. C'est l'attitude, n'est-ce pas, de Jean Rostand à la fin de sa vie. Il dit, vous avez de la chance de croire. Il disait ça souvent. Pour moi, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais bien qu'il existe Dieu. Je n'admets pas le raisonnement de certains croyants qui disent les athées sont athées parce qu'ils ne voudraient pas qu'il y ait de Dieu, qu'il y ait quelqu'un qui les voit et qui les juge. Et Jean Rostand ajoutait, moi, vraiment, je ne redouterais pas d'être jugé. Je serais tellement compensé par la satisfaction qu'il y ait autre chose que cette petite vie. Car ça l'ennuyait, cette petite vie. C'est une entrevue qu'il avait donnée à l'abbé Jean Toula. On rencontre souvent cette attitude chez ceux qu'on appelle les agnostiques. J'ai beaucoup d'amis agnostiques. C'est-à-dire tous ceux qui, sans nier formellement l'existence de Dieu, ils n'osent pas affirmer son existence. Ils ne sont pas sûrs. Pensez à André Malraux, qui confiait un jour à son ami, le chanoine Pierre Bockel, que j'ai bien connu, que j'ai beaucoup aimé, le chanoine Bockel. Eh bien, c'est dans L'Enfant du rire. Je vous recommande ce livre qui est paru il y a bien longtemps. C'est en 1973, L'Enfant du rire de Pierre Bockel. Très beau livre. Alors donc, André Malraux confiait un jour à son ami, Pierre Bockel, qui était curé de cathédrale à Strasbourg, c'est là que je suis allé le voir, eh bien que Jérusalem était la seule grande capitale religieuse du monde où il n'était jamais allé. Et pour s'y rendre, disait-il, Malraux, il faudrait pouvoir s'agenouiller au mont des Oliviers. Que c'est beau cette sincérité de la part de cet homme, qui avait saisi le cœur du christianisme et qui n'osait pas y croire. Toute la richesse qu'il a perdue, pauvre lui. Ce recours à l'histoire semble également nécessaire lorsqu'on s'adresse à des esprits marqués par les trois philosophes que Paul Ricoeur, que j'ai aussi interviewé à rencontre à la télévision, ce merveilleux Paul Ricoeur, les trois philosophes, il les a appelés justement les maîtres du soupçon, hein, Marx, Nietzsche et Freud, et ces trois penseurs allemands du siècle dernier soupçonnent toute religion, la religion chrétienne en particulier, de n'être, disent-ils, que la projection de nos désirs humains. Des désirs de quoi? De sécurité. Puis des désirs d'éternité. Parce que nous ne voudrions pas admettre que la vie se termine à notre mort. Dieu aurait créé tout ça pour rien. Nous qui sommes des miracles vivants, nous serions sortis du sol par le sein de nos mères et l'action évidemment de nos pères. Pour rien. Pour rien. Parce qu'au bout de 70 ans à peu près, nous retournons dans le sol et c'est tout. Et cette planète continuera à tourner pour rien. Tout cet équilibre fantastique de la nature sur cette planète qui est génial d'organisation, c'est rien. Et qui tourne autour du soleil, depuis des milliards d'années, pour rien. Et ce soleil qui brûle, pour rien. Mais tout ça, pour rien. Ça tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Ils disent, ces gens-là, qu'il n'est pas besoin de réfuter les convictions religieuses d'un croyant. Il suffit, selon eux, de montrer que nos croyances, que mes croyances, s'enracinent toujours dans une espèce de terreau de misère. C'est vrai que j'ai eu une enfance difficile. Et ce serait donc pour échapper à la misère de la condition humaine, par réaction contre elle, que les hommes ont inventé l'illusion d'un Dieu, d'un paradis. Illusion qui a permis à des millions d'échapper au désespoir. Mais qui est vraiment trop humaine, cette religion, et qu'il faut avoir le courage, disent-ils, de dénoncer comme appartenant à un âge infantile de l'humanité. Mais je pense qu'il est indispensable de prendre en considération cette objection qu'on entend souvent. Mon Dieu, qu'elle m'est faite souvent, je l'entends. Il arrive aux chrétiens d'adresser à lui-même, d'ailleurs. On se dit des fois, l'Évangile, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Je pense que je peux rétorquer dans un premier temps, ce n'est pas parce que le message évangélique est beau qu'il est faux. Pourquoi la réalité ultime ne serait-elle pas magnifique? Si Dieu en est le créateur, de quoi n'est-il pas capable? On peut chacun se souvenir, n'est-ce pas, à ce propos, que quelque temps avant sa conversion, Paul Claudel, dont je vous ai parlé de sa conversion, avait admis l'idée que la vérité n'est pas forcément triste. Tant il est vrai que pour croire à la bonne nouvelle de l'Évangile, il faut d'abord se débarrasser de cette espèce de slogan terriblement pessimiste, même diabolique, je crois, selon lequel la vérité ne peut pas être merveilleuse. Bien oui, la vérité est merveilleuse et joyeuse. Il y a des raisons objectives pour lesquelles les chrétiens croient à la vérité de leur évangile, je vous les livrerai un jour. C'est le message définitif que le Verbe éternel, la parole éternelle de Dieu notre Père, qui est Jésus incarné, le Fils éternel, est venu confier à nous, les hommes et les femmes, à une certaine époque de notre histoire, il y a 2000 ans. Les deux méthodes d'apologétique, les deux méthodes de façon d'expliquer la foi que j'essayais de vous exposer brièvement, me semblent complémentaires. Un Pascal lui-même ne tombe jamais dans le défaut d'une affirmation absolue. Il reconnaît qu'il faut juger de la doctrine par les miracles, puis des miracles par la doctrine, autrement dit, un prodige venant accréditer un message religieux absolument contraire à la sainteté divine, ne serait certainement pas l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est affirmée dans toutes ces merveilles qui nous entourent, et dans les merveilles que nous sommes nous-mêmes. Regardons-nous dans un miroir, et regardons nos yeux qui voient. Quel miracle que la vue! Et quel miracle que le phénomène de se reconnaître dans un miroir, et de savoir que c'est nous, de savoir que nous existons, de savoir que nous allons mourir, de savoir que notre vie a un sens et que ce sens ne peut exister que dans le cœur de Dieu qui nous aime. Dieu nous aime et nous avons toutes les raisons d'être pleins d'une joie inextinguible. C'est un feu dévorant que cette joie, un doux feu, un feu à nul autre pareil, une douceur qui vient de cette miséricorde de Dieu, qui nous pardonne tout, pourvu que nous nous tournions un peu vers lui, et que nous acceptions d'être aimés de lui.